Bonjour, je m'appelle Pierre Craig. Bienvenue au balado Les petits caractères. Je suis journaliste. J'ai animé durant 13 ans l'émission La facture à Radio-Canada. Alors, ma consommation, j'en connais un petit bout là-dessus. Option consommateur, c'est un organisme à but non lucratif qui vous informe et puis aussi qui défend vos droits depuis 37 ans. Vous imaginez bien que les avocats d'Option consommateur, eux aussi, en connaissent un bon bout. Ensemble, on a eu l'idée de vous présenter deux fois par mois ce balado, un balado qui touche votre vie de tous les jours. Que ce soit, par exemple, un voyage annulé, c'est cette saison, par la compagnie mais pas encore remboursé, un achat en ligne toujours pas livré, comment pouvez-vous défendre vos droits? Avec les avocats d'Option consommateurs, je vais décortiquer tout ça pour que les petits caractères, vous savez, là, ceux qu'on dit jamais, moi non plus d'ailleurs, vous causent le moins de soucis possible. Dans notre dernier balado, on a parlé de l'importance de faire un budget, que nos revenus soient modestes ou non d'ailleurs. On vous a aussi mis en garde contre certaines pratiques de prêteurs privés et d'entreprises de redressement de dettes. Mais aujourd'hui, on s'interroge sur une dépense, une des plus grosses dépenses qu'on puisse faire, l'achat d'un véhicule. Mettre 10, 15, 25 000 ou même beaucoup plus sur un véhicule sans réfléchir, ça peut nous mettre dans le trouble assez sérieusement. Alors qu'on décide d'acheter ou de louer, que ce soit un véhicule d'occasion ou neuf, il y a des questions à se poser. Et pour nous aider à le faire, un vieux complice de la facture. Georgini, directeur depuis plus de 30 ans de l'APA, l'Association pour la protection des automobilistes. Bonjour Georges.
Bonjour.
Et ça fait vraiment plaisir de te revoir. Là, hein? Ça fait quand même quelques années là, que j'ai quitté la facture. On faisait beaucoup de choses ensemble, mais ça me fait vraiment plaisir. Je te souhaite une bonne année, au fait.
Merci, pareillement.
Bon, la première question, Georges, on parle de voiture aujourd'hui. Je pense que les gens commencent peut-être à penser à acheter quelque chose. J'en suis le meilleur exemple. J'ai envie de changer de voiture. Si on regarde là, le marché du neuf versus le marché d'occasion, est-ce qu'il y a Il y a plus de gens qui achètent des voitures neuves ou il y a davantage de gens qui achètent des voitures d'occasion?
Vous savez, une auto va durer à peu près 15 ans à partir de sa première vente jusqu'à la mise au rancard. Puis elle est vendue à peu près 3 à 4 fois pendant les 15 années. Alors, ça fait qu'il y a un acheteur quand elle est neuve et deux acheteurs pour la voiture lorsqu'elle sera une auto d'occasion. Alors, le marché de l'occasion a plus que deux fois l'ampleur du marché des autos neuves.
Ah oui, à ce point-là.
Oui. Visible. Le marché de l'occasion est moins visible parce qu'il n'est pas appuyé de la même manière par les manufacturiers. On est conscient du marché de la voiture neuve à cause des achats quand même très gros des manufacturiers auto de publicité et à leur présence.
OK. Écoute, je disais au début, Georges, que beaucoup de gens commencent à penser à acheter un véhicule neuf ou d'occasion. Là. Est-ce que c'est une bonne idée là, d'acheter maintenant? On est en pleine pandémie. Est-ce que ça a une incidence sur le marché de la voiture pour le consommateur? Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter maintenant?
À la PA, on dit aux gens de remettre leur achat pendant le confinement. Premièrement, pour les raisons de santé publique. Et aussi parce qu'en étant capable de mieux magasiner une fois qu'on a la possibilité de se déplacer, on aura une meilleure possibilité de faire examiner le véhicule, de faire un essai sur route s'il s'agit d'un véhicule d'occasion. Les commerçants aussi auront plus de facilité à évaluer votre véhicule actuel que présentement. Il est possible d'acheter un véhicule pendant la pandémie. Tout peut se faire à distance. On peut même livrer le véhicule chez vous. L'Office de la protection du consommateur a une tolérance, parce que normalement, un marchand d'auto est censé faire affaire à son adresse. Mais présentement, on permet que la transaction se fasse ailleurs sans que ça soit considéré une vente itinérante où on aurait 10 jours d'annuler la vente.
Okay. Donc, tu nous suggères de retarder peut-être l'achat, mais on peut réfléchir en attendant. Parlons du marché d'occasion, parce que tu m'as dit que c'était à peu près deux fois plus important que le marché du neuf. Moi, je me rappelle, écoute, de mes années à la facture, puis il y a un mot, il y a une expression qui me revient en tête, et c'est « faux particulier ». Tu sais, c'est ces gens-là qui font croire aux consommateurs qu'ils sont des particuliers alors qu'ils n'en sont pas, en fait. Hein. Comment on peut reconnaître ça, un faux particulier?
C'est difficile, mais si vous arrivez à une adresse puis il y a 3 ou 4 voitures à vendre, c'est déjà un indice que la personne probablement ne vend pas son véhicule personnel, mais fait semblant de vendre un véhicule personnel. Avec le numéro de la plaque, on peut s'informer au niveau de la société d'assurance automobile. On peut vous confirmer si la plaque est valide. Souvent, l'info particulier ne voudra pas immatriculer le véhicule. Alors, il va prendre une vieille plaque pour la mettre dessus pour donner un semblant que le véhicule est immatriculé à son nom. Des fois, on va voir des plaques X qui commencent avec un X ou une plaque temporaire, une collée en papier. C'est un signe que le véhicule est en transit, que ce n'est pas un véhicule qui arrive à vie en permanence à cette adresse.
C'est interdit, là. Écoute, par la loi, là, les faux particuliers, c'est interdit. Tu m'as fait parvenir un communiqué de presse de l'Office de la protection du consommateur. Et c'est très récent, là, c'est le 19 janvier 2021. Il y a un faux particulier, justement, qui a été condamné à 10 000 $ d'amende.
Oui, effectivement. La problématique, c'est souvent les faux particuliers vont écouler des véhicules. Ils ont des relations avec des commerçants d'auto qui leur passent des autos qu'eux ne veulent pas vendre. Et pour moi, pour faire un commerce de chez moi, pour tirer avantage, c'est possible que je ferai trafiquer le compteur, ça c'est assez courant chez les faux particuliers, ou qu'on va cacher l'existence de dommages antérieurs. Et c'est justement ça notre souci. On a le pire des deux, c'est-à-dire on a quelqu'un qui ne donne pas une garantie comme un particulier légitime, mais aussi qui connaît les astuces pour camoufler les défauts, comme un commerçant qui est par net.
Tu viens de dire le mot magique, malheureusement magique, le odomètre, et bon, des odomètres reculés, je pense que le public connaît ça très bien. Y a-t-il un moyen pour savoir là, que l'odomètre a été trafiqué?
Il y a des moyens pour les experts, mais un consommateur ne saurait pas où aller. Pour trafiquer un compteur de nos jours, vu que c'est électronique, il faut avoir les logiciels. Quelqu'un n'est pas obligé de démonter des cadrans au tableau de bord. Alors, ça ne laisse pas de traces. Par contre, à l'intérieur de l'auto, dans l'ordinateur de bord, même dans certains accessoires comme le système de navigation de bord sur l'auto, il y a des données sur le millage ou sur l'utilisation du véhicule qui peuvent servir à un expert. Mais pour un consommateur normal, c'est très difficile. La meilleure chose à faire, vous demandez de voir le dossier d'entretien. Vous essayez de voir si on a des preuves assez continues sur l'entretien du véhicule. Peut-être une recherche sur l'historique du véhicule. Un rapport de Carfax pourrait peut-être vous donner quelques indices sur le kilométrage. Mais les trafiquants d'odomètres font utilisation des mêmes rapports pour savoir jusqu'à où rajeunir l'auto. Alors, il n'y a pas une façon à toute épreuve. Je vous dirais, une inspection avant l'achat peut aider parce que on va quand même, le réparateur ne va pas savoir que le compteur est trafiqué, mais il pourra vous donner une indice de l'état général du véhicule.
Ton conseil, c'est faites inspecter votre véhicule d'occasion.
Nous y croyons fortement à l'APA, à tel point qu'on a un inspecteur qui est sur la route. Il est dans la grande région de Montréal, recommandé par l'association. Et on dit aux gens, c'est plus facile comme ça, vous pouvez faire affaire sans avoir à déplacer le véhicule, il viendra sur place.
Écoute, Georges, il y a un autre souvenir qui me vient de mes années de la facture. On avait fait des reportages là-dessus. Il y a des véhicules d'occasion qui sont vendus, mais sur lesquels pèsent encore des dettes. Et je me rappelle du RDPRM, Registre des droits personnels et réels mobiliers. Est-ce que ça vaut la peine d'aller fouiller là-dessus avant d'acheter un véhicule d'occasion?
Si vous achetez un véhicule d'occasion d'un particulier, c'est quand même essentiel. À une époque, Québec n'avait pas, la province n'avait pas un registre où on pouvait vérifier s'il y avait un financement qui n'avait pas été entièrement payé sur une auto. De nos jours, on a cet outil. On devrait s'en servir. Des fois, il y a un financement qui n'est pas payé, mais ce qu'on conseille aux gens à ce moment-là, faites une entente avec le vendeur. Dites-lui, écoutez, je vais faire une partie du paiement à votre institution financière, là, le bailleur de fonds, celui qui le finance, pour justement régler la dette. Et je paierai le solde, la différence, je vous ferai un paiement. Alors, comme ça, en faisant deux transactions, on est assuré que le véhicule est payé d'un côté et le vendeur va recevoir sa quote-part.
Bon, si on achète d'un concessionnaire d'occasion maintenant, il y a une règle depuis relativement récemment, je pense, Georges, tu me rappelleras peut-être l'année, là, le prix que le concessionnaire demande doit tout inclure, hein, je pense bien.
Disons, c'est normal que le prix doit être le vrai prix. Mais dans l'industrie automobile, ce n'était pas un acquis. On pourrait peut-être se rappeler d'une époque où souvent on avait un 2000 ou 1500 $ de plus pour le transport et la préparation. Ça n'était pas mentionné dans le prix annoncé. Ce n'est pas le coût réel du transport, c'est un prix gonflé. Et finalement, l'État a intervenu et a demandé, lorsqu'on annonce un service ou un bien au Québec, que le prix annoncé soit le vrai prix.
Le prix total, sauf les taxes.
Exact. Alors, c'est clair, en matière de la vente automobile, ça, c'est une exigence. Pour un véhicule d'occasion, le commerçant doit vous permettre de la faire inspecter. Ce n'est pas une courtoisie, c'est un engagement que la loi, auquel la loi insiste. Ça aussi, c'est un plus au Québec qu'on n'a pas dans les autres provinces.
Tu m'as dit qu'il y a des dérapages chez les marchands d'occasion, entre autres, sur la question de ce qu'ils appellent les frais de certification.
Il n'y a pas de certification au Québec. C'est un faux frais. C'est juste une invention. Je ne donne pas l'argent. Je n'ai versé cette somme à personne.
Et c'est supposé certifier quoi dans l'esprit des marchands ou enfin dans le discours des marchands? Là, ils sont supposés certifier quoi?
Rien. C'est eux-mêmes qui le certifient. Mais okay. on fait semblant qu'il y a une redevance à un tiers, peut-être une autorité gouvernementale ou ministérielle là, qui va exiger, par exemple, 700 $ pour certifier votre véhicule.
Il y aurait un ménage à faire du côté là, des concessionnaires d'occasion, de véhicules d'occasion.
Je vous dirais, ça touche à la fois les concessionnaires et les marchands indépendants. Il y a un gros ménage à faire au niveau des pratiques. Et effectivement, je dois vous dire, quand la loi est sortie, quand cette exigence est sortie en 2008-2009, on avait l'appui de l'Association des marchands de véhicules d'occasion et de l'Office. Les deux organismes ont travaillé de concert pour s'assurer que tous les commerçants respectaient la règle. Parce qu'actuellement, les victimes, ce n'est pas seulement les consommateurs, c'est l'ensemble des commerçants honnêtes. Parce que quand vous faites un tri en ligne, les véhicules sont triés souvent par prix du moins cher au plus cher. Alors si moi, mon prix, ce n'est pas le vrai prix parce que je vais ajouter 500 $ quand vous arrivez sur place, c'est évident que ça me permet un classement plus avantageux que quelqu'un avec une annonce qui est fiable. Et actuellement, on a besoin des mesures d'application de la loi, des enquêtes terrain pour le faire. Au moins, ce que j'ai appris récemment, c'est que l'Office de la protection du consommateur a des bonnes statistiques qui confirment notre préoccupation à l'effet qu'un un pourcentage important des annonces, le prix est un faux prix.
Le financement des véhicules d'occasion, je présume que c'est valable aussi pour les véhicules neufs. Chez les concessionnaires, ça tourne, tu me disais ça, Georges, autour de 5 à 7
%C'est-à-dire, si vous allez financer un véhicule où il n'y a pas de promotion du manufacturier, un véhicule neuf, ou si vous êtes pour financer un véhicule d'occasion chez un concessionnaire ou chez un marchand d'auto, présentement, les taux qu'on vous propose sont entre 5 et 6 ou 7 %. Mais ce qu'on dit aux gens, c'est écoutez, essayez de voir, par exemple, avec votre institution financière à vous, avant même de faire votre magasinage. Si, par exemple, en prenant un emprunt garanti par votre hypothèque de maison, que vous ne pourriez pas arriver à un taux d'intérêt de loin inférieur. On voit présentement des taux d'intérêt de 2 à 2,5 % pour le financement d'une auto. Si on arrive à le faire sur sa marge de crédit ou par exemple sur un prêt personnel.
Bon, Georges, je vais avoir l'air d'une vieille mémère parce que j'arrête pas de me rappeler de plein d'affaires de mon époque à la facture. Puis il y a un mot qui me revient en tête, le mot balloon. Je pense qu'on a parlé de ça, toi et moi, quand j'animais la facture. Peux-tu nous réexpliquer c'est quoi la balloon puis comment on peut s'en, sans méfier. Là.
Une balloune arrive à la fin de votre... quand vous vendez un véhicule, vous n'êtes pas encore arrivé à la fin de votre emprunt, alors vous le vendez avant le terme. Peut-être on vous a invité à la concession pour justement voir les nouveaux modèles. Et le solde, la balance, le montant qui reste sur votre emprunt est plus important que la valeur de l'auto. Alors, vous avez un financement 84 mois, ça c'est la norme pour une auto neuve. Après 84 mois, non seulement que vous avez payé l'auto, mais elle a une valeur. Alors, même après 7 ans, elle pourrait servir de mise de fonds. Le 3 ou le 5 ou le 7 000 $ que l'auto vaudrait en échange sert à réduire le paiement pour votre prochain véhicule. La contrepartie ici, c'est que vous êtes allé l'échanger après 3 ans. Vous avez eu une carte d'invitation de votre concessionnaire. On vous a dit que ça ne vous coûtera rien. Vous pourriez partir dans le nouveau modèle. Mais vous n'aviez pas fini de payer le véhicule actuel. Alors, vous devez à peu près 3 ou 4 ou 5 000 $ c'est la norme qu'on voit sur votre véhicule actuel, de plus que la valeur du véhicule. Et ça, c'est ajouté à votre prochain véhicule. On ne vous le dit, souvent, on ne vous le dit pas ouvertement. On va le cacher. Et ce qui arrive, c'est que la prochaine fois que vous recevrez une invitation similaire du même concessionnaire, on a du monde qui ont fait comme ça le refinancement de balloon à 2 ou 3 reprises. Alors, on finit avec des Hyundai Elantra à 40 000 ou 45 000 $. Le pire cas qu'on a vu, c'est un Chevrolet Bolt. C'est une voiture électrique qui vaut à peu près 40 000 ou 45 000 $. Et la personne aura à payer presque 100 000 $ avant que la fin de son financement. Elle avait fait faire 3 balloons de suite chez le même concessionnaire GM.
Et ça, Georges, là, c'est totalement interdit. Là, c'est illégal de faire ça. La loi sur la protection du consommateur l'interdit.
Quand la loi a été adoptée à la fin des années 70, il y avait une perception que les Québécois étaient trop endettés et peut-être un peu innocents aussi. Alors, on a voulu mettre des balises. Plusieurs des innovations dans notre loi ont été copiées ailleurs. Certaines sont restées uniques, dont celle-là. Alors, si moi, je vous fais une vente à tempérament, une vente avec financement, des meubles, par exemple, pour mon salon une automobile, le commerçant a droit seulement de financer les biens que vous achetez le jour même. J'ai pas droit de prendre vos dettes antérieures et de les refoulé dans votre financement actuel.
Georges, il y a un truc auquel je tiens beaucoup. Je veux t'en parler parce que j'ai un exemple. Je vais le raconter très brièvement. C'est une de mes voisines. Je vais juste donner son prénom. Elle s'appelle Hélène. Il y a peut-être 2 ans, j'avais un petit papier sous mon essuie-glace. Monsieur Craig, j'ai besoin d'aide. Je suis sans secours. Une dame de plus de 80 ans qui avait presque fini de payer sa petite voiture. Et bien sûr, elle n'avait que 6 ou 7 000 km. Tu imagines la valeur du véhicule d'occasion qu'elle avait. Elle s'en va chez son concessionnaire pour faire réparer une petite lumière qui s'allume sur son tableau de bord. Et elle ressort du concessionnaire avec une voiture neuve, avec toutes les options sur la voiture neuve. Et ils ont le culot en plus de lui demander, et elle le fait, parce qu'elle est comme subjuguée, là. Elle écrit une lettre pour dire à quel point elle est contente du service qu'elle a eu. Et le lendemain, elle se réveille de cette espèce de, je sais pas quoi, là, on va appeler ça un hypnotisme quelconque, et elle m'appelle à l'aide. Bon, on l'a aidé, on n'a pas pu défaire le contrat, mais on lui a fait enlever toutes les options. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois passer, cette espèce d'arnaque des personnes âgées chez certains concessionnaires?
Oui, ça nous arrive d'apprendre qu'il y a des personnes âgées de 80, 85 ans qui se font embarquer dans des financements jusqu'à 7 ou 8 années. Alors, ils avaient un véhicule avec peu de millage qui se servait principalement pour aller faire l'épicerie et le rendez-vous chez le médecin. Puis un jour, ils reçoivent une invitation pour passer chez un commerçant et on leur dit que ça vous coûtera rien. Vous pourriez partir avec une neuve. C'est évident, pour un marchand, ça ne vous coûtera rien. Ne veut pas dire que ça ne vous coûtera rien. Ça veut dire que vous allez avoir le même paiement. Mais au lieu d'avoir un paiement, admettons, de 350 $ pour encore 2 ans et l'auto vous appartient, vous allez avoir un paiement de 350 $ pour 96 mois. Alors, votre paiement est le même, mais votre dette vient de passer de peut-être 6 000 $ à 30 000 $ ou 32 000 $ Puis le pire, c'est dans votre cas à vous, la voiture de madame a été prise en échange pour 7 000 $ une Hyundai Accent, et elle était en vente 2 semaines plus tard chez le même commerçant pour 11 000 $
Georges, je ne veux pas qu'on se quitte avant de se parler des retours de location. Je compte une petite anecdote, la mienne. Je ramène un véhicule, je nommerai pas la marque de véhicule parce que ça peut se passer chez beaucoup de concessionnaires, je présume. Alors, je fais réparer le véhicule chez un carrossier spécialiste en retour de location. Je paye 500 ou 600 $ pour faire arranger la voiture. L'inspecteur du concessionnaire vient l'inspecter et me montre une facture, un bill, comme on dit en bon français, de 1500 $ Quand j'arrive chez le concessionnaire, ils me demandent de leur payer le 1500 $ Bon, évidemment, moi, je connais un petit peu les choses. J'anime la facture en plus à ce moment-là, bien sûr. Et je leur dis, rendez-vous devant le juge. On n'est pas allé devant le juge, mais j'ai reçu une lettre me menaçant, pas me menaçant, mais disant que ça pourrait nuire à mon crédit. Est-ce que c'est chose courante, ça?
C'est monnaie courante. En fin de location, si vous recevez un devis avec des dommages que vous jugez exagérés, et que vous n'arrivez pas à vous entendre avec le représentant du fabricant, eux vont traiter ça comme une dette que vous n'avez pas réglée, un compte en souffrance, et c'est en moyenne pression, ils envoient ça à Equifax ou TransUnion. C'est pas correct.
C'est du chantage. Du chantage.
Oui, puis ce qu'on conseille aux gens, c'est premièrement, répondez rapidement si vous contestez l'évaluation, idéalement avec une évaluation que vous avez fait faire, peut-être avant de remettre le véhicule, et envoyer en copie conforme, une copie à Equifax ou à TransUnion, en leur disant que c'est une réclamation contestée et que le commerçant ne peut pas affecter votre dossier de crédit. Mais même avec ça, ce n'est pas une garantie à toute épreuve. Ce qu'on a besoin, c'est un gros jugement contre quelqu'un qui a envoyer cette information de mauvaise foi et où un tribunal verrait que ce n'est pas acceptable. Si vous avez un bon dossier de crédit, une mention pareille contre Pierre Craig qui paye ses dettes et qui ne va pas vous atteindre. Mais il y a des gens qui ont des dossiers moyens. Des fois, ils ne payent pas l'ensemble de leur carte de crédit à tous les mois. Ils ont eu quelques petits retards. Ce n'est pas des gens qui ne paient pas leur compte, mais une mention pareille peut les embêter.
Bon, tu as un excellent site Internet, Georges, le site de l'Association de la protection des automobilistes, l'APA. Je le regardais ce matin là, encore. Et tu as, je vais encore employer une expression très française, un bon checklist sur ton site hein, pour les retours de location.
Oui, effectivement, pour aider les gens à voir clair. Vous savez, je vous donne un exemple. Un autocollant pour un terrain de stationnement sur votre pare-brise. Il n'y a rien de plus banal que ça. Mais ça se peut qu'en fin de location, si vous ne l'avez pas enlevé vous-même, vous allez recevoir une estimée pour 80 $ pour le décoller. C'est routinier de nos jours.
Il ne recule devant rien, hein?
Non. Ou, par exemple, votre contrat de location exige que vous avez 4 pneus. Similaires ou identiques de la même marque dans le contrat de location. Vous avez eu une crevaison, alors vous avez remplacé un pneu, puis vous avez 2 pneus qui sont usés, vous les remplacez. Ça fait que vous avez 3 marques de pneus sur votre véhicule. À ce moment-là, on va vous demander 4 pneus neufs, même si vos pneus ne sont pas usés. Alors, ce qu'on dit aux gens dans ce cas-là, achetez un pneu usagé pour qu'au moins vous avez 2 pneus d'une marque et 2 pneus de l'autre, et vous allez être conforme assez pour passer au retour de location. Mais ça, il faut le faire avant de remettre le véhicule.
Georges, on pourrait se parler pendant des heures de la question des autos. Ils vendent pour ce genre de trucs-là des garanties prolongées. On a déjà essayé de m'en vendre. Moi, je me rappelle que je l'avais refusé. Je pense que c'était 700 ou 800 distribués, évidemment, sur le nombre de mois de location du véhicule. Juste un petit mot rapide, là. C'est ce genre de garantie-là. On n'a pas parlé des garanties prolongées pour les véhicules neufs non plus. Là. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Est-ce que tu conseilles aux gens d'acheter ces garanties-là ou si la garantie légale est suffisante? Comment tu vois ça?
Garantie contre l'usure excessive. Si c'est offert par le manufacturier, Honda, Toyota, le prix est généralement plus intéressant. Nous avons espoir qu'ils vont payer. Pour les compagnies indépendantes, c'est très variable et c'est très cher, c'est 1 500 $ sur la durée de votre bail. Vous êtes peut-être mieux mettre cet argent-là de côté pour justement payer pour la mise en état de votre véhicule.
Puis une garantie prolongée pour un véhicule neuf, conseilles-tu ça aux gens, toi?
Si vous louez, pas nécessaire. Si c'est un véhicule coté fiable par l'APA, les gens peuvent avoir les évaluations dans le guide annuel de Protégez-vous, pas nécessaire. Un modèle de marque européenne, la majorité des BMW, Mercedes, Audi, fortement conseillé si vous allez la garder après la fin de la garantie d'origine.
Parce qu'une chose que je sais pour avoir fait un reportage là-dessus, c'est que c'est extrêmement payant. L'industrie des garanties prolongées, tu n'as aucune manutention, tu n'as rien, c'est 50 % de profit pour les gens qui te les vendent.
Là, on parle des garanties de compagnies indépendantes que vous allez prendre, par exemple, pour une auto d'occasion. Mais pour une neuve, les constructeurs limitent le profit du concessionnaire à peu près 30 % et leurs garanties sont fiables. Je dirais dans l'occasion, oui, il y a beaucoup d'abus, puis il y a des garanties que personne ne devrait acheter parce que la limite de la couverture est trop faible. Mais chez les fabricants d'auto, il y a une meilleure constance.
Georges, ça a été un grand plaisir de refaire une entrevue avec toi. Ce ne sera pas la dernière, je présume, parce que ça continue de m'intéresser, puis toi, je pense que ça te passionne. Merci beaucoup, Georges.
Un grand plaisir.
Celui qui réalise ce balado, mon ami Roger Chambault, m'a déjà dit, « Pierre, l'automobile, c'est une culture. » C'est vrai. Les pubs de chars, et c'est pas pour rien, parle à notre vanité ou à notre envie d'être le plus fort ou le plus vite. Ces pubs-là coûtent une fortune à fabriquer. Ça doit très bien marcher, puisqu'on les voit et qu'on les entend depuis, bon, toujours finalement. Le truc, c'est qu'il ne faut pas laisser les fabricants et les concessionnaires décider des questions qu'on doit se poser nous-mêmes. Des questions d'ailleurs, vous en avez d'autres? Vous vivez d'autres genres de situations? Suivez Options Consommateurs sur Facebook ou Twitter et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre balado. Allez, salut, on se retrouve dans 2 semaines.